France Inter, 13h. Frédéric Barrère pour le journal. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Une pollution en mer d'hydrocarbures se rapproche des côtes de la Corse. Le plan Polmar a été déclenché. Une nappe de 35 km de fioul, lourd, très toxique. José Tafani sur place en Corse dans un instant. Un plan d'action immédiat déclenché à Strasbourg après la détection d'un cluster au variant Delta. Plusieurs étudiants et professeurs de la Haute École des Arts du Rhin ont été contaminés. L'école est fermée. Une marche des libertés à l'appel des gauches politiques, syndicales et associatives, des rassemblements dans plusieurs villes aujourd'hui pour dénoncer les idées de l'extrême droite. Dans ce journal également, le sommet du G7 en Angleterre, Emmanuel Macron rencontrera en tête-à-tête Joe Biden cet après-midi, des élections législatives en Algérie et notre rendez-vous du samedi 13h avec Thomas Pesquet pour son journal de bord dans Mission Alpha. La météo estivale pour cet après-midi et pour demain, Jean-Michel Golinski. À la fin de ce journal, à 13h20, secret d'info au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Une enquête sur le nudge, cette technique à la mode qui vise à influencer les comportements. De plus en plus de gouvernements y ont recours et nous verrons comment en France Emmanuel Macron l'a utilisé pendant la crise du Covid.
Jacques Monin, secret d'info à 13h20.
France Inter.
Les inquiétudes et les regards sont tournés depuis ce matin vers la Corse. Une nappe d'hydrocarbures d'environ 35 km de long a été repérée à l'est de l'île. La pollution se rapproche, elle est visible par endroits à 800 mètres au large d'Aléria et de Solenzara. Le préfet de Haute-Corse a déclenché le plan anti-pollution Polmar. À l'origine de cette pollution, un bateau qui aurait dégazé sur place, sur la plage de Viniceni. José Tafani de France Bleu RCFM.
La nappe d'hydrocarbures de 300 hectares hein, s'est séparée en deux. L'une est au large d'Aléria, l'autre se dirige vers le sud. Elle est actuellement du côté de Ventiseri, près de la base aérienne de Solenzara. Elle serait entre 800 et 500 mètres de la côte. C'est là que les sapeurs-pompiers de la Haute-Corse ont installé leur poste de commandement. Pour l'heure, donc, l'urgence est de fermer l'accès des boulettes d'hydrocarbures aux étangs. Urbine est déjà fermée. Les pompiers donc travaillent pour fermer l'étang de Diane et de Pâle par la pose de barrages filtrants. Plusieurs barrages filtrants d'ailleurs sont déjà arrivés sur place. Les pompiers donc attendent pour l'instant la localisation précise des nappes pour les déployer. Le Falcon a survolé à plusieurs reprises le littoral et les moyens de dépollution en mer sont attendus pour le début d'après-midi. Et une soixantaine de pompiers et de militaires de la sécurité civile sont sur place pour nettoyer les plages si nécessaire et donc ramasser les galettes de fioul.
Et cette pollution aux hydrocarbures lourds peut provoquer une catastrophe écologique et au cas où des galettes de fioul arriveraient sur les plages, les autorités mettent en garde. Il ne faut surtout pas les toucher à main nue, ce fioul est toxique, ce type d'hydrocarbures lourds est encore largement utilisé dans le transport maritime, il est très polluant. Christian Bucher, directeur du Centre d'études de la mer et de l'Institut catholique de Paris avec Sandy Dauphin.
Un fioul lourd, c'est un fioul de type Erika ou Prestige, c'est-à-dire c'est un fioul qui est en queue de raffinage, qui est particulièrement polluant. C'est un fioul, une espèce de glaise plus ou moins visqueuse, si vous voulez, et toxique, hein, il faut le dire, à inhaler et à toucher. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter tout contact. Il ne faut pas que les particuliers ramassent boulettes, si vous voulez, sur les plages, parce qu'effectivement, ça peut être toxique. Il faut laisser les spécialistes faire ce genre de choses. Mais on a donc deux nappes qui dérivent, et plus on pourra les prendre en mer, mieux ce sera, parce que ça évitera aux nappes, en quelque sorte, de se fragmenter, de toucher un linéaire côtier beaucoup plus grand. Donc, bien sûr, il faut essayer de les prendre en mer, c'est ce qui va être fait. Mais c'est évident qu'il y a une partie qui peut sombrer aussi au fond. Hein. Mais voyez, au-delà de tout ça, ça montre que ce fioul est très toxique. Encore une fois, on l'utilisait dans certaines centrales thermiques à terre, c'est proscrit. Il faut vraiment de toute urgence arriver à des navires propres comme nous avons plus ou moins des voitures propres depuis un certain nombre d'années.
Christian Bucher du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique. La campagne de vaccination contre le coronavirus est la barre symbolique. Des 30 millions de Français ayant reçu une première dose devraient être atteintes. Aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas perdre le rythme. De nouvelles campagnes vont être lancées. Et si aujourd'hui, le nombre de cas de contamination est de nouveau inférieur à 5000, il y a, dans certaines régions, une inquiétude vis-à-vis du variant Delta, le variant indien. C'est le cas à Strasbourg, où la Haute École des Arts du Rhin, les Arts Déco, a dû fermer hier. En raison d'un cluster, plusieurs étudiants et des professeurs ont été contaminés. Un plan d'action immédiat a été déclenché. Olivier Vogel, France Bleu Alsace.
Anna est étudiante en quatrième année de scénographie. Mercredi soir, elle reçoit, comme tous les élèves, un mail de la direction de l'école qui invite tout le monde à se faire dépister. Le variant indien circule dans l'établissement. Un stand est installé dans le jardin de la HIR. Dans les couloirs, c'est un peu panique à bord.
Des étudiants et étudiantes en troisième année, on leur a annoncé qu'ils devaient passer leur diplôme dans 3 heures. Une étudiante est venue nous demander des lumières, tout ça, pour éclairer les salles, et c'était un peu une espèce de panique.
Et au lendemain du retour à la quasi-normale dans les bars et restaurants, le contraste est violent avec cette atmosphère qui rappelle les pré-confinements.
À chaque fois qu'on nous annonçait des confinements, c'était un peu cette ambiance-là qu'il y avait à l'école, où on voyait tout le monde un peu déménager ses projets, sortir avec des grands cartons. Quand on voit après que les bars restent ouverts et qu'il y a plein de gens partout qui, eux, sont pas impactés par ça, c'est vrai que c'est un peu étrange.
Ce quartier de la Cruteneau est réputé pour sa forte concentration de bars. C'est ce qui inquiète l'Agence régionale de santé, qui tiendra un stand en fin d'après-midi, place de Zurich, avec autotest et rendez-vous vaccination. Des maraudes seront organisées, en particulier à destination des serveurs et patrons de bars. La Haute École des Arts du Rhin est fermée jusqu'à nouvel ordre et les remises de diplômes reportées à une date ultérieure.
Et puis à Paris, sur l'esplanade des Invalides, une fête géante hier soir a rassemblé plus de 2000 personnes sans masque. Et après le début du couvre-feu, après 23 heures, l'appel à cette soirée, Projet X, du nom du film américain centré sur une fête de jeunes, a été lancé sur les réseaux sociaux. La police a dû intervenir pour mettre fin à cette soirée clandestine. Il n'y a eu aucune interpellation. La campagne pour les élections régionales à 8 jours du scrutin, plusieurs meetings ont lieu. Aujourd'hui, notamment en Ile-de-France, le vice-président du Rassemblement national et tête de liste en Ile-de-France, Jordan Bardella, est aujourd'hui en Seine-et-Marne à Fay-les-Nemours, et Jordan Bardella, ce matin, a renvoyé dos à dos Valérie Pécresse et Emmanuel Macron.
Les électeurs d'Emmanuel Macron ont beaucoup de chance en Ile-de-France parce qu'ils ont en réalité 2 listes. Ils ont possibilité de voter soit pour la liste de M. Saint-Martin, soit pour la liste de Mme Pécresse. Il m'a fallu une calculatrice pour essayer de déterminer, de compter le nombre de candidats macronistes, soit membres du Modem, soit des gens qui ont été soutenus lors des précédents scrutins locaux par la majorité présidentielle sur sa liste. Et inversement, sur la liste de M. Saint-Martin, il y a beaucoup de gens qui viennent des Républicains et qui étaient élus avec Mme Pécresse en 2015. Donc on voit bien qu'on est dans un mélange des genres. Les Franciliens savent où nous serons, ils savent où je serai l'an prochain, aux côtés de Marine Le Pen dans cette bataille présidentielle. On ne peut pas en dire autant de Mme Pécresse. Sera-t-elle candidate à l'élection présidentielle ? Aura-t-elle déjà été nommée ministre d'Emmanuel Macron ? Sera-t-elle candidate à un poste de Premier ministre ? Il est important que les Franciliens aient connaissance de ses positions à quelques jours du vote.
Jordan Bardella avec Maxence Lambrecq. L'autre actualité politique aujourd'hui, c'est le rassemblement à gauche de militants politiques, syndicaux, écologistes et associatifs pour dénoncer les attaques contre les libertés qui se multiplient selon eux. Des manifestations ont donc lieu aujourd'hui dans plusieurs villes pour dénoncer les lois liberticides, mais aussi les idées de l'extrême droite et le racisme. À Paris, la manifestation partira à 14h de la place de Clichy pour aller place de la République. Aurélie Trouvé, porte-parole d'ACTAC, avec Thibault Lefebvre.
Nous sommes extrêmement inquiets du climat actuel. Ce climat politique et social a changé de visage, en particulier cette année, avec un nouvel arsenal juridique liberticide au nom de la sécurité globale des principes de la République. Des attaques lancées par le gouvernement, par exemple, contre des universitaires taxés d'islamo-gauchisme. Une tribune de militaires d'extrême droite soutenue par Marine Le Pen. Voilà, tout ça fait que on considère que le gouvernement est en train d'étouffer les libertés, d'accroître les répressions policières, de diviser en stigmatisant une partie de la population, en particulier les musulmans, s'allier avec l'extrême droite pour reprendre ses idées. Aujourd'hui, ne constitue plus un interdit et ça devient extrêmement grave. Et donc, ça nécessite de construire des digues. On ne laissera pas, évidemment, cette contagion des idées se faire et ce climat de haine et de division se propager. Donc, on ne peut pas accepter que ce soit la droite et l'extrême droite qui, finalement, règne sur ce pays.
Aurélie Trouvé, porte-parole d'ATTAC. François Fillon devrait intégrer le conseil d'administration d'un groupe pétrolier public russe. L'ancien Premier ministre a été proposé au conseil d'administration du groupe Zarubezhneft. François Fillon deviendrait ainsi l'un des représentants de la Fédération de Russie au conseil d'administration de cette société spécialisée dans le développement et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures, notamment à l'étranger. Le sommet du G7 à Carbis Bay en Angleterre avec ce matin des rencontres bilatérales en marge du sommet. Emmanuel Macron, lors d'un entretien avec Boris Johnson, a demandé au Premier ministre britannique de respecter la parole donnée à l'Union européenne sur le Brexit. De son côté, Boris Johnson appelle les Européens au pragmatisme et au compromis. Cet après-midi, Emmanuel Macron rencontrera en tête à tête et pour la première fois Joe Biden, le président américain. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Inter dans les Cornouailles, une discussion qui va durer au moins une heure et Emmanuel Macron a beaucoup de points à aborder.
Absolument, Emmanuel Macron qui avait déjà saisi le bras de Joe Biden hier, juste après la traditionnelle photo d'accueil. Le président français l'a longuement accaparé. Il lui a parlé de la Chine, désignée comme une rivale mais pas comme une ennemie, sans méfier, sans s'y confronter. Voilà l'attitude à adopter selon lui. Les deux hommes vont en rediscuter cet après-midi. Ils aborderont aussi un problème intérieur commun. Comment satisfaire une frange de la population déçue, voire en colère, dans leur propre pays, cette frange des Gilets jaunes et l'Amérique des Trumpistes, ce que l'Élysée décrit comme cette classe moyenne que la démocratie doit aider. Autre thématique inévitable, reprendre les voyages vers les États-Unis depuis le territoire français. Dans ce contexte pandémique, les Américains peuvent désormais venir facilement en France. L'inverse n'est pas vrai. Enfin, Emmanuel Macron devrait aborder le Brexit aussi avec Joe Biden et plus précisément l'Irlande du Nord, où Londres, selon lui, ne respecte pas l'accord signé en fin d'année dernière, empêche toute négociation et prolonge donc une situation floue, incertaine et tendue. Boris Johnson dit à peu près tout l'inverse. Avant le début de ce sommet, la diplomatie américaine avait donné raison aux Européens dans ce dossier. Emmanuel Macron va pouvoir en parler directement avec Joe Biden tout à l'heure.
Richard Place avec Raymond Albouy. L'actualité à l'étranger, c'est aussi les élections législatives en Algérie. On a appris ce matin que les trois figures de la contestation algériennes arrêtées jeudi ont été relâchées à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote. Il s'agit de Khaled Drareni, journaliste correspondant de RSF et TV5 Monde, Ishan El Kadi, directeur de Radio M, et Karim Tabou, une figure du Irak, mouvement de contestation au pouvoir en place. Et les Algériens se rendent donc aux urnes pour des législatives anticipées sur fond de répression et boycottées par l'opposition. Le principal enjeu est à nouveau la participation. Sur place à Alger, Christian Chéneau.
Ce matin, dans le quartier d'Hydra, sur les hauteurs d'Alger, ce n'est pas la grande foule devant les bureaux de vote. Pour ces premières élections législatives, depuis le départ du président Bouteflika, c'est un scrutin sur fond d'inquiétude, titre le quotidien El Watan, mais aussi de grande indifférence de l'opinion publique. Dans ce bureau de vote, les électeurs ont le choix entre 42 listes différentes et les urnes sont encore vides. Certes, nous sommes un jour de week-end et les électeurs ici votent plutôt l'après-midi, mais la participation promet de battre des records. Elle n'était que de 35% lors du précédent scrutin en 2017. L'un des rares électeurs du bureau de vote veut quand même croire au changement.
C'est un début, on met le pied dans une nouvelle ère. C'est très important pour le pays d'avoir des députés élus et normalement élus, on va dire.
Cette année, la nouveauté, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'indépendants.
Exactement. C'est bien parce que, bon, on a trop de partis et il n'y a pas trop de programmes. Donc aujourd'hui, les indépendants ont une chance de donner un espoir. En fait, c'est des citoyens comme Lambda qui vont essayer de ramener un plus, quoi, de ramener des nouvelles idées.
Et c'est sur ces futurs députés indépendants que le président Tebboune compte se tailler une majorité parlementaire.
Christian Chéneau avec Arthur Gerbeau à Alger. Tennis, Roland-Garros et après la nuit magique pour les fans de tennis et la victoire de Djokovic hier soir face à Nadal. Place à la finale dames cet après-midi. La russe Anastasia Pavlyuchenkova face à la tchèque Barbora Krejčíková, l'une des finales les plus imprévisibles de l'histoire de Roland-Garros, mais qui ne doit rien au hasard. Justine Hénin qui a remporté 4 fois ce tournoi avec Fabrice Abgral.
Moi, je suis heureuse parce que je sais tout le travail qu'il y a derrière pour ces jeunes femmes, qu'elles n'ont pas toujours l'occasion d'aller loin dans des grands chelems et qu'aujourd'hui, elles sont toutes récompensées de leur travail. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit mettre en avant. Après, pour qu'elles deviennent plus populaires et mieux connues du grand public, il faut être capable de répéter. Évidemment, c'est ce qui manque parfois dans le tennis féminin, c'est qu'on voit des joueuses et puis on n'en entend plus parler. Donc, il faut d'abord continuer à montrer ces joueuses-là, même si on ne les connaît pas, surtout les montrer. Et puis ensuite, qu'elles fassent aussi leur part du travail en essayant de gagner de manière plus régulière, pouvoir s'installer un peu plus. Et on a un niveau moyen probablement dans le top 100 qui a vraiment évolué par rapport à il y a 10 ou 15 ans, ça c'est une réalité. Donc il y a du positif là-dedans, mais je pense qu'il manque une hiérarchie, je pense qu'il manque des rivalités, parce que le public a besoin de s'identifier et on a besoin de revoir des joueuses qui se sont déjà beaucoup affrontées, de parler de cette histoire, de voir comment ils vont réagir dans ces circonstances-là. Mais c'est vrai que ça manque pour moi quand même de joueuses qui arrivent à répéter de manière plus constante et je crois qu'on en a quand même encore besoin.
La championne Justine Hénin avec Fabrice Abgral. 4, 3, 2, 1, lift off. Mission Alpha, notre rendez-vous du samedi 13h comme chaque semaine, nous retrouvons Sophie Becherel et Thomas Pesquet pour le journal de bord de l'astronaute. Thomas Pesquet nous raconte les événements marquants de sa semaine et cette semaine, l'équipage a joué les déménageurs et deux astronautes ont joué les mannequins, Sophie Becherel.
Oui, en prévision de la première sortie dans l'espace programmée le 16 juin, Thomas Pesquet et Shane Kimbrough ont essayé leur scaphandre. Ils ont passé en revue avec le centre de contrôle les étapes de cette première sortie. Ils doivent installer grâce au bras robotique canadien les nouveaux panneaux solaires de la station. Panneaux arrivés avec le vaisseau ravitailleur samedi dernier. Il y avait dedans 3,3 tonnes de fret qu'il a fallu méthodiquement décharger.
Il y a un ordre très 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 précis. Il y a toute une chorégraphie qui est dictée par, comme d'habitude, le centre de contrôle, parce que évidemment les choses sont pas accessibles, il y a plusieurs couches. En plus, il y a des choses plus ou moins prioritaires. Il y a notamment des expériences qui sont réfrigérées, donc il faut transférer assez rapidement. Mais il suffit de suivre le document et ça se passera très bien.
Alors, est-ce qu'il y avait des surprises, et notamment du fromage de Normandie dans ce vaisseau ?
Non, pas de fromage cette fois-ci. Alors, il me reste 2-3 chances quand même avant la fin de la mission. Bon, on a quand même eu pas mal de ravitaillements. On a eu du courrier des familles. J'ai eu quelques t-shirts de mon frère, de ma famille, d'amis, des petits clins d'œil. Du chocolat aussi, très sympa. Je pense que la motivation aussi pour décharger le véhicule, c'était que tous ces trucs-là, c'était quand même tout au fond. Donc, il a fallu qu'on fasse 15 heures de boulot à décharger tout le reste pour arriver vraiment jusqu'à la dernière couche. Et c'est là qu'on a trouvé les cadeaux, les lettres, le chocolat et la nourriture. Malin, le gars de la NASA qui a empaqueté tout ça.
La semaine prochaine, vous réaliserez la première des deux sorties prévues pour changer les panneaux solaires. Comment ça va se passer ?
On va sortir tous les deux avec Shane, comme la dernière fois. Donc on en a fait deux pendant Proxima, ma mission d'il y a 4 ans. Et là, on va en faire deux. La petite différence, c'est qu'il y a toujours une combinaison avec les bandes rouges, qui est un peu le chef, en gros, qui est un peu plus impliqué, on va dire. Moi, j'aurai les bandes rouges, lui, il aura les bandes blanches. On va se répartir les rôles et l'idée c'est d'aller installer des nouveaux panneaux solaires déroulants, enfin ils sont dépliants et déroulants, donc mécaniquement c'est quand même super impressionnant, ça pèse 350 kg à peu près chacun. On va les déplacer, moi avec le bras robotique, je vais le passer à Shane, ensuite il va me le repasser, on l'amène tout au bout de la station, le plus loin qu'on peut aller, puis ça va nous augmenter la puissance électrique à bord de l'ISS quand on aura installé tous les nouveaux panneaux solaires de 20-25%, donc c'est quand même pas négligeable.
Est-ce qu'au moment de sortir dans le vide, il y a une appréhension ?
Oui, il y a une appréhension, c'est certain. On n'a vraiment pas envie de faire une erreur, on n'a pas envie de faire en sorte que les choses marchent pas. C'est quand même des années de boulot pour, des centaines de personnes, mais entre les gens qui ont travaillé sur la conception de ce panneau solaire, toutes les entreprises qui ont été impliquées, les outils qu'il nous faut pour faire la sortie extravéhiculaire, la répéter en piscine, écrire les procédures, etc. Donc on n'a pas envie de faire une erreur et de casser un équipement qui a coûté $1 million. Après, il n'y a pas une appréhension, on n'a pas l'impression de risquer sa vie en permanence. Mais la sensation quand même de lâcher la station et d'être juste accroché à une longe, cette espèce de chute lente, quand on voit la station qui s'éloigne comme ça en tombant tout doucement, ça c'est très désagréable. Moi, d'être accroché avec deux doigts à la station, juste la tenir comme ça et de regarder un vide de 400 km sous mes pieds, ça fait rien en fait, parce que le cerveau a bien compris qu'on n'allait pas tomber. Par contre, de mettre une longe, donc on est accroché, il n'y a pas de problème, hein, et de lâcher ses deux doigts et de partir comme ça dans le vide total vers la Terre, mais très très lentement, ça c'est très désagréable. Voilà. Bon, après on s'habitue, hein. Mais la première fois, oui, j'ai pas fait le fier, ouais. c'était pas super super.
Une sortie dans l'espace, c'est une journée de 15 ou 16 heures, je crois. C'est intense, stressant, il doit falloir beaucoup de concentration. Mais est-ce que vous avez parfois quelques minutes, rien que pour vous, pour savourer ?
Pendant la sortie, il faut faire attention à ne pas aller trop vite. Et puis parfois, on attend, on est un peu en avance sur son collègue, on a des actions à synchroniser qui vont arriver, donc on n'a rien d'autre à faire que d'attendre. Donc on peut avoir 3-4 minutes. Et à ce moment-là, on se retourne, on regarde un peu la Terre, on souffle, on prend des photos. On a un peu le vertige, que sais-je encore. Quand je serai sur le bras robotique suspendu par les pieds à 17 mètres de la station dans le vide de 400 km, je pense que j'aurai le temps d'admirer un petit peu la Terre, j'espère.
Thomas Pesquet, émission Alpha, retrouvée sur franceinter.fr. Et puis d'un mot sur Roland-Garros, j'y reviens. Un Français a remporté le tournoi en junior, Roland-Garros junior. C'est Lucas Van Hache, 17 ans, qui a battu son compatriote Arthur Fils, 6-4, 6-2. La prescription culturelle pour ce week-end nous amène au théâtre de Chaillot à Paris, où le chorégraphe Angelin Preljo-Cage peut enfin montrer au public sa version du Lac des Cygnes. Il revisite ce classique pour en faire un ballet à la fibre écologique, Stéphane Capron.
La tournée du spectacle a été stoppée à l'automne et après 8 mois d'arrêt, les 26 danseurs de la compagnie avaient soif de reprendre cette création gigantesque imaginée par Angelin Preljo-Cage.
C'est le lac qui prend feu là et qui grandit dans le corps des danseurs et sur la scène. Et on a commencé cette création avec un mois de retard, mais j'ai récupéré des danseurs complètement affamé de mouvements, d'espace, de danse. Mais là, j'avais vraiment envie de me faire plaisir, de faire un spectacle à la portée de tout le monde, sans jamais rabaisser mon niveau d'exigence.
Angelin Preljo-Cage ancre son ballet dans le 21e siècle. À la musique de Tchaïkovski, il y ajoute celle du groupe électro 79D et il en fait une ode à la nature qui disparaît peu à peu face à la technologie et au changement climatique.
Aujourd'hui, à cause des problématiques climatiques, on est dans des situations où on pourrait se demander si nos enfants et les enfants de nos enfants sauront un jour ce que c'est qu'un lac, parce qu'il y a tellement de lacs qui s'assèchent à cause de la chaleur. Et puis, il y a des tas d'espèces, d'animaux qui disparaissent, des oiseaux, des mammifères. Il ne faut pas la défoncer, cette planète.
Le ballet rend hommage à l'histoire de la danse. Il est traversé par différents styles, avec des clins d'œil à Pina Bausch, mais aussi aux grands maîtres du classique.
Voilà le Lac des Cygnes avec Stéphane Capron. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Jean-Michel Golinski.
Aujourd'hui encore, le soleil sera plus discret qu'ailleurs, à proximité de la Manche, en particulier de l'Artois à la Normandie, où les températures auront du mal à dépasser 17 à 20 degrés. Sur le reste du pays, la grisaille dense en matinée entre la Garonne et les Pyrénées évolue favorablement, et sous un ciel pratiquement tout bleu, il va faire jusqu'à 27 degrés à Rennes, sur la Champagne et la région parisienne, 31 près de la Loire, sur le Poitou-Charentes, le Limousin et en Rhône-Alpes, et jusque 34 du Golfe du Lion à la Basse-Vallée du Rhône et de la Gironde au Quercy, avec possiblement une ondée sur les massifs du sud aux heures les plus chaudes. Demain, la chaleur sera plus pesante, entre 34 et 37 degrés sur les régions méridionales, 30 en moyenne sur une large moitié nord du pays, sous un ciel bleu absolument partout, après la levée rapide des grisailles côtières.